Les beaux jours reviennent, les premiers rayons de soleil vous ont peut-être incité à vous pencher sur le sujet des panneaux solaires. Il faut dire que le concept est alléchant et les promesses marketing nombreuses avec un unique investissement permettant de réduire ses factures sur le long terme. Les revendeurs se sont multipliés ces dernières années avec des solutions pour tous les budgets. L'idée de produire sa propre énergie fait envie, mais se lancer demande quelques recherches. Il faut comparer les différentes solutions, calculer la rentabilité, mais aussi installer son achat. Heureusement, cela fait maintenant plusieurs mois que certains membres de la rédaction sont équipés. Quel bilan tire-t-il de leur expérience et quels sont leurs conseils? C'est ce que nous allons voir dans ce nouvel épisode de Carnet de Panique. Pour en discuter, je suis aujourd'hui avec Nicolas qui a rédigé toute une série sur le sujet appelée La Maison au Soleil. Salut Nicolas.
Bonjour.
Je suis également avec Anthony qui prépare un papier sur son installation solaire en immeuble. Salut Anthony.
Salut Félix, salut à tous.
Et enfin, je suis aussi avec Cédric, notre développeur qui a des panneaux solaires chez lui depuis quelques temps. Salut Cédric.
Bonjour tout le monde.
On va commencer par une petite remise en contexte. Ça fait combien de temps que vous êtes équipé en panneaux solaires? Nicolas, je crois que c'était toi le premier à être équipé.
Sans doute. Moi, les premiers panneaux solaires sont arrivés en juin 2024. Donc ça va bientôt faire un an. J'ai d'abord eu un panneau solaire seul, qu'on branche directement à la maison. Un panneau de 500 watts créé par BIM. Et puis je me suis dit que c'était bien, mais pas suffisant. Donc après, j'ai reçu aussi une station solaire complète conçue par Anker avec... maintenant j'ai 4 batteries et 4 panneaux solaires de plus de 500 watts, donc ça prend pas mal de place, mais voilà, ça a permis de tester de nouvelles choses. Et puis depuis l'hiver, j'ai testé aussi une batterie pas reliée au solaire, cette fois une batterie Zendure, pour tester le stockage d'énergie sans solaire et en essayant de le rentabiliser avec les charges sur les heures creuses, mais on reparlera de tout ça dans la suite.
Ok, Anthony, t'as quoi toi?
Alors, mes panneaux auraient aussi dû arriver en juin 2024, mais je vois la logistique, ils sont arrivés que cet hiver. Comme contrairement à Nicolas, je n'habite pas dans un entrepôt, je n'ai qu'un système photovoltaïque. Donc j'ai installé depuis quoi maintenant, 5 ou 6 mois, pas tout à fait, 2 panneaux rigides qui ont une efficacité de 22%, c'est des cellules type N pour les gens que ça intéresse, qui ont la particularité d'être bifaciaux, technologie qui est de plus en plus commune, donc les deux faces sont vitrées, donc à la face avant tu as les rayons directs du soleil, et puis à la face arrière tu as le réfléchissement des rayons, phénomène d'albédo. Et donc tout à fait théoriquement, ces panneaux qui sont sur une seule face, des panneaux de 430 watts sont censés magiquement passer à quasiment 600 watts sur les deux faces. Donc de manière tout à fait théorique, mes deux panneaux font 1138 watts. Et ces deux panneaux, ils sont reliés à un hub 2000 de Zendure qui alimente deux batteries qui font chacune quasiment 2 kWh. Et le surplus va dans le réseau électrique. Donc deux panneaux, un inverteur, deux batteries, une prise électrique.
Ok, et toi t'es en immeuble donc?
En immeuble.
Ok. Et toi Cédric, t'as quoi?
Eh ben, moi, j'ai un système sensiblement similaire à celui d'Anthony, sauf qu'avec des panneaux solaires d'ancienne génération, on va dire ça comme ça. Donc, c'est pas des bivers, c'est standard. Et moi, là, pour le moment, ils sont posés un peu à l'arrache contre ma façade. Donc, c'est pas le plus optimal, mais c'est ce qui prend le moins de place dans mon jardin. Et voilà, avec le Hub 2000 aussi, et branché à une prise de courant.
Okay.
Pour restituer l'énergie.
Et ça craint de les installer juste comme ça sur la façade sans forcément.
Si, c'est une très mauvaise idée.
Si, ouais, c'est une très mauvaise idée, mais c'est le problème, je trouve, des panneaux solaires, c'est qu'on sait. Enfin, si on veut les fixer, faut y réfléchir. Et on va pas remonter sur le toit 10 fois. Donc là, c'est plus. C'était plus un test. Donc pour l'instant, ils sont comme ça. Il faudrait que je les laisse.
Voilà, c'est ça que j'allais dire. C'est ça qui est important, c'est qu'il faut pas oublier que c'est des grosses surfaces qui sont soumises au vent dans toutes les directions. Et si on veut pas qu'ils finissent chez les voisins ou autre chose, il faut les lester, ouais. Donc ça, c'est très important.
Et des grosses surfaces qui sont de plus en plus rigides pour résister au vent et pour résister à la grêle, donc qui sont de magnifiques voiles. Donc si elles sont pas lestées, c'est terrible.
Et c'est ce que, voilà, étant en Bretagne, en plus, je craignais un peu ça. Donc surtout que l'an dernier, enfin c'était en 2023, l'automne, où il y a eu une grosse tempête, on a eu des coupures pendant une dizaine de jours, etc. Donc je craignais un peu ça, j'ai mis le paquet. Et ça n'a pas bougé, mais je pense qu'il faut bien ça, il faut vraiment pas hésiter là-dessus. Donc oui, Cédric, j'avais vu ton installation, c'est pas du tout, c'est pas du tout safe.
C'est pas du tout bon, mais ce qui est problématique, c'est que ça prend une place de fou, en fait. Deux petits panneaux, enfin, j'ai un des kits les plus petits. Si on n'a pas un grand jardin, ça peut vite être problématique.
Ah, t'as un kit qui est ultra typique, t'as des panneaux de 500 watts qui font 1m80 de large, c'est le panneau star du marché, enfin celui que tout le monde a, quoi.
Bah, j'en ai maintenant 5, effectivement, moi, panneaux.
Crâneur.
Ils sont tous dans ces eaux-là. Oui, bah, non, mais c'était. Surtout que j'ai dû en renvoyer vers Lyon parce que j'ai plus place, en fait.
Mais oui.
Parce que voilà, ça prend effectivement beaucoup de place. Et en plus, on ne peut pas les mettre n'importe où. Enfin, on peut faire ce qu'on veut, mais si on veut qu'ils servent à quelque chose, on ne peut pas les mettre n'importe où.
Ouais.
Bah justement, ce type de kit un peu clé en main, on a envie de le poser dans le jardin, mais c'est un peu l'endroit le plus... pas dangereux, mais je veux dire, si on a des enfants, si on a des animaux, si en fait, ça devient une problématique à gérer, alors que si on prend un installateur qui nous les met sur le toit...
Ah, évidemment.
On a plus de
problème. Mais c'est pas le même prix, mais oui, évidemment.
Oui, oui. Mais du coup, ces kits-là, des fois, on se dit, ah tiens, c'est pas très cher... On va se lancer dans le solaire un peu par cette porte-là, et au final, du coup, on les met un peu dans le jardin, mais les coins sont saillants, il y a quand même pas mal de câbles qui traînent partout, il faut une prise pas loin, voilà. C'est vrai que moi, du coup, ils sont contre la façade un peu pour pas que ça gêne, et en même temps, et du coup, c'est pas le top.
Parce que du coup, ce genre de panneau là, d'1m80, c'est un peu le premier achat pour les débutants, c'est ça ?
Oui, on peut dire ça. C'est-à-dire, bah, typiquement, le panneau que j'ai là de BIM, c'est vraiment le kit. Il y en a plein des comme ça, je dis BIM, mais on en a testé d'autres. Enfin, voilà, c'est le classique. Donc, c'est un panneau effectivement d'à peu près 500 watts. Lui aussi, il est bifacial, donc ils promettent des choses, des merveilles avec la réflexion de l'autre côté. En vrai, c'est un peu exagéré, mais bref, peu importe la quantité. Mais surtout, ce qui est important, c'est que effectivement, c'est vraiment parfait pour un débutant dans un sens, parce que tu reçois un gros paquet. Alors, il faut quand même le dire, hein, c'est très gros, c'est très lourd, c'est fragile parce que c'est du verre, donc il faut être deux. C'est vraiment important. Mais donc, si tu es deux, tu le mets à peu près où tu veux dans le jardin, tu l'ouvres, tu le déploies. Là, surtout celui de BIM, par exemple, il y a le support intégré, donc vraiment, c'est ça. Tu l'ouvres, tu le déploies, tu branches la prise et c'est fini. Tu n'as vraiment rien de plus, ça, c'est vraiment le niveau de base. Faut juste penser effectivement au lest si tu le mets par terre. Donc faut bien lire les consignes des fabricants. Mais je sais plus combien c'est, mais on parle de plusieurs dizaines de kilos par panneau. Enfin, c'est vraiment important. Et l'autre point, c'est effectivement où tu le mets. Et plein sud. Et surtout, alors auquel on ne pense pas forcément, c'est il faut une zone sans ombre. Et ça, en été, c'est assez facile, mais l'hiver, ça devient un autre problème. Étant donné que même un arbre, l'arbre des voisins, même s'il est assez loin, bah, il est capable de projeter une ombre et ça pourra ruiner la production. Mais bon, oui, pour quelqu'un qui veut débuter, c'est le plus simple, c'est vraiment facile. T'achètes le panneau, tu le branches, il commence à produire immédiatement et voilà.
Et quand on dit c'est une solution pour les débutants, sans même parler du CAD BIM qui est probablement le plus simple. Même si tu dis je veux faire un peu de DIY, j'achète mon panneau séparément de mon support, séparément de mon micro-onduleur. Deux panneaux de 500 watts plus un micro-onduleur, on est à moins de 500 euros. Hein. Okay. Donc on est vraiment sur
choses. Alors que BIM, c'est plus cher, oui.
Ouais, oui.
Tu payes le côté tout en un, mais oui, c'est.
Mais on est vraiment sur des choses pour être allé il y a pas longtemps en grande surface de bricolage, c'est des choses que maintenant tu trouves dans les rayons de Leroy Merlin, quoi. Les panneaux de 500 watts, même ceux qui sont pas chers, parce que je crois qu'on est maintenant tombé à sous les 150 euros. C'est 500 watts, c'est un rendement de 22%, c'est du bifacial, c'est de la cellule de type N, pas de type P, donc c'est pas de la mauvaise camelot, quoi, pour un prix qui est relativement abordable. Enfin, c'est relativement abordable. Donc ouais, c'est vraiment la solution du débutant. Mais effectivement, une fois que tu ajoutes le prix de la bordure en béton ou des sacs de sable ou des choses comme ça pour lester, et puis des contraintes de où est-ce que je le mets, ah il y a la niche du chien, ah il y a c'est un peu plus compliqué. Mais niveau financier, oui, ça devient facile.
Mais toi, du coup, t'as fait comment ? Parce que t'es en appartement, du coup, t'as banalisé tout ton balcon pour mettre un panneau solaire ?
Bah alors, j'ai fait comme des centaines de milliers de personnes qui font ça depuis des années en Espagne, au Portugal, en Allemagne aussi, c'est assez populaire, où les kits de balcon sont devenus populaires. Alors, l'installation typique du kit de balcon, normalement, c'est des panneaux souples, qui sont attachés avec des colliers de serrage tout bêtement sur le garde-corps du balcon, et qui sont reliés. Donc en général, tu as ce qu'on appelle un micro-inverteur, donc un tout petit inverteur, donc qui transforme le courant qui vient des panneaux solaires en courant qui est acceptable par ta prise électrique, et c'est branché directement à la prise électrique. C'est jamais des panneaux extrêmement puissants, les panneaux souples. Je crois pas qu'il y en ait qui dépassent 250 watts dans des dimensions raisonnable. Par contre, il pèse moins de 5 kilos, alors qu'un panneau de 500 watts, comme ceux de Cédric ou de Nicolas, c'est 20 kilos. Il y a pas de batterie, donc c'est pas cher. C'est vraiment, enfin, c'est pas cher. C'est un peu plus cher que du panneau rigide parce que c'est du panneau souple. Mais l'avantage du panneau souple, c'est que si le garde-corps, par exemple, a un angle, le panneau solaire fait l'angle. Il y a pas de souci. Donc c'est un peu moins cher que le, c'est un peu plus cher que le panneau rigide, mais c'est pas non plus mirobolant. Ouais. Et ça permet d'effacer une partie de la consommation. J'ai évidemment pas fait ce choix-là. J'ai pas eu non plus trop le choix parce qu'on a, on a quand même tapé aux portes de tous les fabricants de panneaux solaires. Et en France, il y a une vraie question sur le panneau souple. Les gens n'en achètent pas. On est un pays un peu bizarre pour ça. C'est-à-dire, on est un des rares pays européens où le panneau souple ne marche pas. Mmh. Donc, les fabricants préféraient m'envoyer du panneau rigide. Donc, avec les panneaux rigides, bah, tu passes par-dessus le garde-corps si t'as un balcon. Donc, tu es avec une monture de balcon, tout simplement. Il y a des montures fixes, donc, où le panneau est collé au garde-corps. Il y a des montures réglables, donc, où on peut régler l'inclinaison. Pour suivre l'azimut du soleil en fonction de ta période de l'année. Évidemment, si tu as une terrasse, c'est plus facile, tu fais comme si c'était un jardin, tu poses le panneau solaire au sol.
En le lestant
ou le lestant exactement comme si c'était un jardin, encore plus que si c'était un jardin, parce que les voisins sont beaucoup plus proches. Évidemment, en appartement, tu n'as pas toujours le choix de l'exposition. Hein, donc moi, par exemple, je n'ai pas de fenêtre plein sud, je suis plein ouest, donc mon panneau solaire, j'ai un panneau solaire plein sud et un panneau plein ouest. Donc forcément, y en a un qui prend le relais de l'autre en fonction du moment de la journée. Mais du coup, même si j'ai pas de monture techniquement, elle s'incline ma monture, mais j'ai préféré plaquer au garde-corps pour des raisons de sécurité. Et même si j'ai ce balcon qui est en angle, et donc du coup, c'est pas forcément l'installation la plus pratique, c'est pas compliqué de taper le rendement maximum théorique de mes panneaux qui est de 430 watts. Donc, même si je suis pas dans le cas idéal, je produis quand même suffisamment pour que ça efface une bonne partie de la consommation au fil de la journée. Mais c'est pas l'installation typique en Europe. L'installation typique en Europe, c'est. J'ai du panneau solaire souple, c'est tout simple. Il y a une prise électrique sur le balcon, je branche la prise électrique et c'est tout.
Ok. Et t'as pas de problème avec ta copro si tu commences à mettre des panneaux solaires?
J'ai
sur
la
le
chance
balcon.
D'être le président du conseil syndical de la copropriété qui a écrit le règlement intérieur, donc il fait ce qu'il veut.
Ok.
D'autres questions?
Et toi, Cédric, il me semble que tu me disais que tes parents avaient une grosse installation de panneaux solaires?
Grosse, je crois que c'est surtout en nombre de panneaux. Ils ont un petit garage, mais ils ont réussi à mettre 20 panneaux.
Ouais, quand même.
Du coup, ça produit 6000 watts théoriques. En pratique, on est bien, hein, parce qu'en plus, c'était difficile avec les arbres autour. On est en pic, on est à 5007. Donc, c'est pas mal. Ils ont une grosse installation, mais du coup, elle est difficile à rentabiliser parce qu'ils n'ont pas de batterie. Et du coup, ouais, ça, c'est aussi un truc, c'est qu'ils sont jetés un peu sans trop réfléchir dans l'investissement des panneaux solaires. Parce que voilà, il y avait les pubs à la télé, il y avait les pubs sur les réseaux sociaux qui disaient avec les aides et tout ça. Et au final, là, ça doit faire 3 mois qu'elle est pleinement fonctionnelle. Sans batterie, ça, c'est une installation qui est surdimensionnée et qui, du coup... ils recrachent tout à Enedis et en plus Enedis là ils ont à peine reçu le contrat de rachat d'électricité qui est vraiment pas intéressant du tout.
Donc,
faut quand même préciser que c'est des panneaux qui ont été installés par un professionnel, ce qui permet de les mettre en hauteur. Enfin, on peut le faire même en tant que particulier, mais c'est ça. Et surtout, en fait, ce que ça permet, c'est de brancher au niveau du compteur d'arrivée de la maison. Alors que nous, nos solutions avec Anthony, la plupart de ce que les particuliers installent, c'est des panneaux qui se branchent dans une prise, comme on l'a dit.
Okay.
Donc ça a pas mal de, c'est pas mal de différences techniques. Et l'installation sur le toit, c'est vraiment l'idéal de toute manière, mais c'est pas du tout les mêmes prix, quoi.
Et du coup, si je comprends bien, le mieux, c'est d'avoir une batterie qui stocke l'énergie générée, c'est ça, plutôt que de rebalancer. Pas forcément.
C'est ce qui est compliqué, parce qu'en fait, si tu prends un système avec batterie, l'élément le plus cher, c'est la batterie.
Ouais.
De très loin. De très, 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 très loin. On parle de 500 balles pour deux panneaux de 500 watts, on parle de 2000 balles pour 4 kWh de batterie.
D'accord.
Et autant le panneau solaire, c'est assez facile à rentabiliser quand il est tout seul, même sans rachat d'électricité. C'est-à-dire un panneau de 500 watts, au prix actuel de l'électricité, s'il est correctement exposé, c'est 4 à 5 ans pour le rentabiliser juste en effacement de consommation. Mmh. Batterie, on a fait les calculs avec Nicolas, dans tous les cas, et puis enfin, de toute manière, il suffit de sortir la calculatrice. Il n'y a pas de scénario dans lequel en France, compte tenu des contraintes réglementaires sur ce qu'on a le droit d'installer, où tu peux rentabiliser une batterie avant la fin de sa durée de vie, c'est-à-dire en moins de 25 ans.
D'accord.
Donc, si tu achètes une batterie, c'est parce que tu as des cas d'usage qui sont je veux décaler ma consommation, par exemple. C'est-à-dire, je veux moins peser sur la grille électrique la journée, je veux utiliser ma batterie le soir, ou je veux pouvoir avoir, pour certains modèles, une multiprise qui est directement branchée sur la batterie et brancher mon iPhone pour quand j'ai une coupure de courant. Avec toutes les questions de quand il y a une coupure de courant, normalement la batterie s'arrête aussi. Enfin bon.
Qu'il faut qu'on explique un peu. Enfin, je sais pas si c'est clair pour tout le monde, mais parce que le principe c'est qu'on a un panneau solaire qui va produire de l'énergie. Lui, il fonctionnera tout le temps. Il produit de l'énergie dès qu'on ouvre le carton, en quelque sorte. Mmh. Mais il faut bien qu'elle aille quelque part cette énergie. Et donc c'est pour ça qu'on les branche sur les prises, n'importe quelle prise qui est reliée au logement, alors d'extérieur hein, de préférence, mais n'importe quelle prise, ça marche en fait. On envoie l'énergie et à partir de ce moment-là, soit on la consomme, donc par exemple le frigo, la box, tout ce qu'on veut, notre ordinateur va récupérer l'énergie, tout ou partie de cette énergie. Soit le surplus est automatiquement, c'est la magie de l'électricité, ça repart dans le réseau en fait, ça repart par les fils qui appartiennent à Enedis, et donc ça repart pour vos voisins en gros, hein, pour faire simple. Il faut savoir qu'en installation comme ça, quand c'est personnel, contrairement aux parents de Cédric, quand vous le faites dans votre coin, on ne peut pas avoir de contrat de revente avec Enedis, c'est pas possible. Pour ça, il faut passer par un professionnel, etc. Bref, on ne peut pas en tout cas avec nos kits. Mmh. Et du coup, ce que vous renvoyez, c'est gratuit. Donc c'est pas perdu parce que quelqu'un d'autre va l'utiliser, mais ce que je veux dire, c'est que vous ne pourrez jamais rentabiliser cette énergie. Tout ce qui y repart est perdu, en quelque sorte, de votre point de vue.
Donc la rentabilisation, tu l'as fait uniquement sur, du coup...
ce que tu consommes.
C'est ça, ce que tu consommes. Donc en fait, ça efface de la consommation. C'est-à-dire que si ton panneau solaire produit 1 kW et que tu consommes 1 kW, bah ton Linky, il te dit que tu as consommé zéro.
D'accord.
Voilà, mais pour donner une idée, on parle dans le jargon de talon de consommation, ce que la maison consomme quand il n'y a rien qui tourne, parce que c'est quand même le cas le plus courant en fait. Même si tu es chez toi, mais encore plus si tu travailles à l'extérieur et qu'il n'y a personne chez toi, ce qu'il faut calculer, ce qu'il faut connaître plutôt, c'est combien ta maison consomme de base. Donc c'est-à-dire justement frigo, box, tout ce qui est toujours allumé, qui va toujours consommer, et en fait c'est pas beaucoup. Alors Anthony par exemple qui a un appartement, ça va être encore moins, mais même Cédric ou moi en maison... En réalité, le talon de consommation, moi, il est très élevé parce que je suis tout le temps là, parce que j'ai plein de trucs qui tournent, j'ai un NAS, j'ai plein de machins, mais pour un foyer normal, si c'est 200 watts, c'est déjà beaucoup.
Oui, je suis à moins de 100 watts hein, pour donner l'ordre d'idée.
Exactement. Et donc, Anthony, avec ses deux panneaux, 100 watts, le talon de consommation, il est tout de suite couvert. Ça, ouais. C'est très facile dès qu'il y a un peu de soleil, même en hiver, même s'il ne fait pas très beau, ça va être facile, ça. Et donc, on va forcément renvoyer beaucoup d'énergie. D'où cette idée de mettre des batteries qui va stocker l'énergie quand il y a du soleil et potentiellement quand il n'y a personne à la maison, quand on consomme le moins, et la resituer plus tard, effectivement, le soir, la nuit, quand on veut. C'est ça le principe.
Mais quand tu as une batterie qui fait, par exemple, 2 kWh, et donc donc ton panneau solaire de 500 watts, même si tu n'en as qu'un, en quelques heures, il va te la remplir, ta batterie de 2 kWh. Donc c'est bien, tu as mis 2 kWh dans ta batterie. C'est 40 centimes d'euros.
Ouais. Oui, non, mais vu
donc multiplie ça par 365 jours, multiplie ça par le nombre d'années de durée de vie de la batterie, ça ne fait pas le prix de la batterie.
Ok.
Donc la batterie n'est jamais rentabilisable. On a beau sortir la calculatrice comme on veut, à partir du principe que le prix de l'électricité va augmenter, on n'arrive pas à trouver un scénario avec Nicolas où la batterie peut être rentable.
Okay.
Panneau solaire, oui, batterie, non.
Je peux donner mes stats à la limite, parce que comme ça fait quasiment un an, je peux voir par exemple que le panneau seul de BIM là, qui donc on branche dans une prise et c'est tout sans batterie, lui il a produit quasiment 300 kWh depuis juin dernier. Ce qui n'est pas beaucoup, beaucoup moins que ce qui est promis, ça c'est un thème général. Après, alors voilà, l'été 2024 a été particulièrement mauvais, donc les simulations sont meilleures. Bref, le kit en cœur que j'ai, enfin j'en ai plusieurs maintenant, mais bref, dans l'ensemble, 1300 kWh environ, depuis à peu près juin aussi. Donc là, on est à peu près à 1600 kWh, sur toute l'année, on sera peut-être, je ne sais pas, les 2000-2500, un truc dans ces eaux-là. Là, on parle de... effectivement, au tarif de l'électricité aujourd'hui, donc si on part sur 20 centimes, aujourd'hui, j'ai gagné. L'énergie solaire qui a été produite m'a permis d'économiser 320 euros d'électricité environ. Mmh. Il faut savoir que l'ensemble du matériel que j'ai reçu, sans parler d'usine dure, mais on tourne là. Alors, il y a des promotions, les prix sont variables, ça change tout le temps, mais bon, on est dans les 6000 euros. Donc, ce qui, donc, pour moi, me donnerait à peu près une rentabilité sur une vingtaine d'années. 20 ans, c'est long, et surtout quand on tient compte du fait que tous les appareils, alors les panneaux, c'est un peu mieux, mais surtout les batteries et plus encore les onduleurs, toute cette électronique-là, elle est garantie en gros une dizaine d'années. Ça dépend des marques, ça dépend du matériel, mais on part sur 10 ans. Et il y a peu de chances, à mon avis, que ces appareils tiennent 20 ans. Très peu de chances.
Mais même les panneaux.
Même les panneaux. Ouais. Mais les batteries peuvent tenir. Les batteries, c'est des cellules EFP, c'est très solide, etc. Il n'y a pas de souci. Mais autant l'électronique ne va sans doute pas tenir si longtemps. Il faut savoir, par exemple, chez Anker, chez Zendure, ils séparent un peu, mais chez Anker, c'est tout intégré. Tu as un module avec la batterie, l'inverteur, l'onduleur, il y a tout dedans. Et si tu as le moindre chose qui va casser, tant que tu es dans la période de 10 ans de garantie, tu as une chance qu'il soit réparé, pris en charge, sans doute remplacé à mon avis, mais bon, pris en charge. Au-delà, c'est bon, c'est fini, tu peux le jeter. Et en fait, tu peux comme ça ruiner complètement tout espoir de rentabilité encore plus que... Et effectivement, comme disait Anthony, les panneaux, eux aussi, tenir 20 ans, c'est pas simple. Même au-delà des problèmes techniques qui peuvent survenir, tout simplement, tu peux avoir une grêle un peu trop grosse un jour, un coup de vent un peu trop gros si tu l'as pas bien lesté. Enfin, ça peut se casser, il peut se passer plein de choses. Sur 20 ans, c'est long.
Et puis, les cellules photovoltaïques, c'est des semi-conducteurs qui s'usent. Et donc, le rendement des panneaux solaires diminue au fur et à mesure. Donc, du coup, ça rend ton équation encore plus compliquée.
Exactement. Et autant sur le toit, quand c'est installé comme chez les parents de Cédric, tu peux dire, t'as peut-être plus de chance. Mais c'est vrai que quand t'es dans le jardin... Il y a un côté, par exemple, si tu dois passer la tondeuse ou quoi, tu peux avoir un caillou qui est projeté. Enfin, il y a plein de situations où je ne pense pas qu'ils tiendront 20 ans.
Moi, j'ai une question, c'est vu que Enedis ne rachète pas l'électricité de ses petites installations, qu'en plus les batteries ne sont pas rentables, c'est très difficile de les rentabiliser, est-ce que du coup, vaut mieux pas trouver une batterie qui servirait à d'autres fonctionnalités? J'entends, parce que tu avais testé une EcoFlow par exemple, est-ce que c'est pas possible de l'intégrer au système et comme ça la EcoFlow tu peux t'en servir pour les vacances et du coup on va dire que c'est plus rentable d'acheter ce type de batterie ou encore les voitures qui ont une batterie qui peuvent, par exemple dans ton cas où tu es en télétravail, du coup elle ne sert pas tout le temps, du coup elle pourrait servir de stockage d'énergie pour la restituer la nuit ou...
Alors, si c'était possible avec la mienne, je le ferais volontiers, c'est pas le cas. Mais cela dit, effectivement, charger une voiture avec l'énergie solaire, c'est un des meilleurs usages que tu peux avoir. Parce que c'est de l'énergie que de toute manière tu vas utiliser plus tard pour conduire et que tu n'as pas dépensé. Et plutôt que de la perdre, c'est une bonne solution. Je crois dire que c'est ce que tes parents font maintenant, ou en tout cas qu'ils doivent faire, c'est que justement tu disais qu'elle était surdimensionnée, mais elle pourrait servir, cette énergie produite en journée, elle pourrait servir à charger la voiture.
Ouais, ça, eux c'est des retraités, ça va être facile à mettre en place, mais...
Si t'es pas chez toi, c'est plus compliqué.
Leur voiture. Oui. Voilà, mais du coup, si la voiture est pleine et qu'ils bougent pas de la semaine... ils peuvent pas se servir de la voiture. Ils ont une voiture qui permet pas de récupérer l'énergie. Donc c'est un peu.
Mais la batterie de la voiture, elle est plus facile à rentabiliser si tu veux qu'une batterie qui fait que batterie. Et tu parlais des EcoFlow, les petites batteries domestiques. Pour avoir vu pas mal d'installations typiques en Espagne, par exemple, c'est assez souvent qu'en petit appartement, oui, t'as de la batterie qui fait 500 watts ou 750 watts et où tu branches ta télé, tu branches ton téléphone dessus. Mais n'empêche que même ces batteries-là, tu prends pas la batterie en te disant je vais la rentabiliser, tu prends ta batterie parce qu'elle correspond en cas d'usage. Si tu prends ta batterie avec en tête une équation mathématique en disant je vais la rembourser avec l'électricité que je mets dedans, ça marche pas.
Je peux m'en parler parce que j'ai fait l'expérience effectivement. Oui, directement. Je me suis dit parce que ce qui est génial avec le solaire, c'est que ça produit de l'énergie gratuite, mais ça s'arrête assez vite, on se rend compte dans l'année. Donc moi, dès le mois de même septembre, mais surtout octobre, en gros, le solaire, c'est anecdotique. Ça permet de recharger même pas ton iPhone certains jours. Enfin, c'est vraiment, même avec tous les panneaux que j'ai, etc., les journées sont courtes, il fait moche, etc. Donc tu produis plus rien. Et en gros, tout ton matériel ne sert plus. Et je me suis dit, bah, c'est dommage, et ce que j'aimerais bien, c'est avoir une batterie qui stocke l'énergie la nuit quand elle est pas chère, grâce aux heures creuses, et qui l'injecte dans le réseau la journée quand elle est chère. D'autant plus qu'à ce moment-là, j'étais abonné avec Tempo, l'offre Tempo d'EDF, et donc les jours rouges, les tarifs hors pleine sont très élevés. Donc je me suis dit, bah, c'est facile, je vais stocker l'énergie quand elle est pas chère et l'utiliser quand elle est très chère, et ça va être rentable très facilement. Eh bien, pas du tout. Donc, j'ai eu 4 batteries Zendure. Donc, on est dans les 7 kWh, un truc comme ça. J'ai réussi, effectivement, à effacer complètement la consommation des heures pleines sur les jours rouges. Alors, sans chauffer, bon, ça, c'est un autre problème. Mais je veux dire, ça couvrait largement mes usages, à part le chauffage, qui est quand même pas rien. Mais je veux dire, voilà, j'arrivais à effacer tout. Et donc, j'arrivais à utiliser complètement l'énergie stockée là-dedans, les vider la journée, les remplir la nuit. Exactement le scénario idéal. Et dans ces conditions, avec vraiment le scénario idéal, mes calculs montraient qu'il fallait effectivement 26 ans pour rentabiliser le prix de l'achat.
Ouais.
Donc là, on n'est même plus à 20 ans, on est à 26 ans, parce qu'en fait, en rappelant qu'il n'y a pas d'injection solaire dans ce scénario-là. Et donc là, c'est vraiment avec un cas en plus qui était le cas idéal, où j'arrive vraiment à effacer tout, ce qui n'était pas très réaliste, étant donné que l'hiver, tu as quand même besoin de chauffage. Donc dans mon cas, même de toute manière, ça n'aurait pas suffi. Mais voilà, même avec la situation idéale. Et... effectivement, autant le solaire lui-même peut devenir rentable, peut être rentable même, mais le stockage pur, c'est pas le cas en France, en tout cas, parce que l'électricité, finalement, est pas chère. Et donc, ben, tu te bats contre... C'est vrai que quand tu... Bah, par exemple, 7 kWh, si tu vides ça dans une journée, même au prix rouge, même dans les pires conditions, à la fin, ça fait pas beaucoup d'euros. Et c'est des systèmes qui coûtent plusieurs milliers d'euros à la base. Donc, c'est mathématique, quoi. C'est impossible d'espérer les rentabiliser avant, en tout cas, que le matériel soit... Enfin, tant que le matériel fonctionne encore.
Est-ce que, du coup, une installation solaire en France n'est pas rentable dans tous les cas ?
Si, en fait, si, mais il faut effectivement... il faut la calibrer correctement. Et tu peux, même avec des batteries, mais il faut peu de batteries, finalement, et peu de consommation, et puis surtout des panneaux.
Ah, donc, une installation pas chère. Et ok, d'accord.
Bah, je prends mon installation, donc deux panneaux de 450 watts, on va dire, on va arrondir. J'ai les panneaux, juste les panneaux, et le micro-inverteur, parce qu'on oublie à chaque fois de parler du micro-inverteur, mais lui, il est important puisqu'il fait deux choses. Il convertit le courant continu en courant alternatif, et puis surtout, il assure la sécurité du réseau. Parce que quand tu as des panneaux solaires, comme disait Nicolas, bah, ils produisent en continu, hein, y a pas d'interrupteur sur le panneau solaire, il n'y a pas d'interrupteur sur le soleil. Mmh. Donc en cas de coupure de courant, faut imaginer que si les panneaux solaires continuent à injecter du courant dans ta prise, quand il y a un petit monsieur d'Enedis qui monte au pylône pour aller rebrancher, il se prend du jus dans la tête. Tu dois avoir un micro-inverteur. Le job du micro-inverteur, c'est quand il y a une coupure de courant, il empêche les panneaux solaires d'injecter d'électricité dans ta prise pour pas aller tuer un technicien d'Enedis. Mmh. Donc tu prends panneaux solaires, les câbles qui vont bien, les montures et le micro-inverteur. Avec la consommation moyenne que j'ai eue ces derniers mois, donc on a eu quand même plus de l'hiver que de l'été, c'est rentable en 4 ans. C'est-à-dire en 4 ans, la consommation que ça efface de mon logement couvre le prix des panneaux.
Okay.
Ce qui est déjà long. Hein. Et au moment où tu ajoutes ne serait-ce qu'une batterie, c'est fini. Il n'y a plus de rentabilité. Donc une installation solaire, ça peut être rentable à condition soit d'enlever totalement la question du stockage de l'équation, soit d'avoir du tout petit stockage et qui a des cas d'usage très précis. Et un des cas d'usage très précis, c'est ma batterie n'est pas une batterie, ma batterie c'est un véhicule. Et donc là, effectivement, on peut retrouver de la rentabilité.
Ouais.
Et il faut ajouter à ça aussi peut-être de changer toutes ses habitudes de consommation, d'essayer de se caler sur le solaire. Si t'as pas de batterie, enfin,
justement, faut pas. Tu le vois, tu vois comment c'est utilisé en Espagne, comment c'est utilisé en Italie, comment c'est utilisé en Allemagne. La question, c'est juste, j'efface mon talent de consommation, enfin, j'efface ma consommation quand il y a du soleil.
Non, mais tu peux aussi.
Oui, si tu peux, mais t'as pas besoin.
Si t'as du surplus. Mais si t'as du surplus, comme tes parents en ont, c'est pratique d'avoir de quoi consommer ce surplus. L'idéal, c'est la voiture, mais un autre cas très simple, c'est le chauffe-eau. Le
oui.
chauffe-eau, c'est un classique.
Ouais.
Ça te consomme, 2 kilowatts. Et donc, tu le mets. Effectivement, on a l'habitude de le faire fonctionner la nuit parce que c'est les heures creuses. Mais en été, il faut prendre l'habitude de le faire fonctionner en journée.
Ouais.
Et c'est là où la domotique t'aide, parce que si tu dois le gérer toi-même, c'est pas possible. Mais il faut domotiser tout ça. Et dès que tu vois qu'effectivement, tu injectes sur le réseau 2000 watts d'énergie, bah, tu dis, voilà, t'actives le chauffe-eau et ces 2000 watts, ils partent dans ton eau chaude.
Ou par exemple, c'est un peu bizarre, mais parce que l'été, tu te dis, bah, attends, là, mes panneaux, j'ai 1000 watts qui rentrent. En fait, c'est plus rentable de mettre la pompe à chaleur, c'est de mettre la clim, que de pas la mettre. Donc, c'est-à-dire, t'es dans un effet rebond total, c'est le truc complètement paradoxal, où en fait, pour que ton panneau soit rentable, il faut consommer plus. Et c'est un peu la même chose avec le chauffe-eau, quoi.
Et justement, là, tu parles de clim, et maintenant, les chauffe-eau, souvent, on installe des chauffe-eau avec une pompe à chaleur. Là.
Thermodynamique.
Thermodynamique, exactement. Ça, c'est hyper difficile à domotiser. En fait, on peut pas le caler sur le.
Si, ils ont tous au moins leur propre système de connectivité. J'ai le cache à Atlantique. Tu peux lui dire, tourne par exemple entre 14h30 et 16h30 quand mes panneaux solaires font rentrer un max.
Faut pas espérer le faire au watt près, mais oui, tu le fais grossièrement. Peu importe si tu consommes un peu trop, un peu moins.
Mais effectivement, si comme disait Nicolas, si t'as pas de batterie, t'as que du panneau solaire, oui, tu fais plus tourner ton chauffe-eau en heure creuse. Tu le fais tourner quand tes panneaux solaires tournent.
Mais sauf l'hiver.
Sauf l'hiver. Mais non, mais c'est ça, c'est là où ça devient un peu compliqué. Mais...
Et d'un point de vue paperasse, c'est compliqué à installer tout ça ? Parce que moi, je pensais qu'il fallait des permis. Donc...
Non, alors, on ne va pas refaire mon article sur le sujet. Tu mettras le lien dans la description pour les gens qui nous écoutent.
Ouais.
En vrai, la paperasse, c'est pas si compliqué que ça pour les installations comme celles que Nicolas et moi avons, ce qu'on appelle les installations d'autoconsommation. Alors, si vous voulez revendre le surplus, hein, on le disait, c'est beaucoup moins intéressant maintenant, parce que les prix ont été divisés par 3, le prix de rachat. Mais donc, si tu veux pouvoir revendre le surplus, il faut passer par un installateur, on l'a dit, donc c'est le cas des parents de Cédric. Il faut que ce soit une entreprise qui est qualifiée RGE. Et donc là, tu peux bénéficier des aides publiques et du rachat. Si l'installation dépasse 3 kWh crête, ce qui est à peu près 6 panneaux, ce qui est le cas aussi des parents, les revenus tirés de la revente sont imposés. Donc là, pareil, quand on parle d'équation pour rentabilité, il faut penser à ça. Mais si on est dans le cas de Nicolas et moi, on est sur de l'autoconsommation toute simple et on ne revend pas le surplus, c'est le régime par défaut pour les particuliers. Le seul truc qu'on doit remplir, c'est un magnifique formulaire qui s'appelle la CACSI, la consommation d'autoconsommation sans injection. Ça prend une dizaine de minutes sur le site d'Enedis. Tous les fabricants de panneaux solaires ont des tutoriels. D'ailleurs, certains volent le tutoriel du concurrent et mettent leur nom par-dessus.
Te propose de le faire pour toi à des sommes folles.
Voilà, c'est ça. Ou sinon, on te demande de payer 75€ pour remplir un formulaire qui prend littéralement 10 minutes. La seule petite subtilité, c'est que si le panneau solaire doit être installé à plus d'1m80 de hauteur, du sol, il faut déposer, là pour le coup, une déclaration préalable de travaux. En ville, on te dira non. Alors, c'est pour ça qu'en fait, en copropriété, on triche, parce qu'a priori, mais on attend la jurisprudence, 1m80 en copropriété, ce serait par rapport aux dalles. Donc si t'es sur ton garde-corps, ça marche. Un jour, ce sera testé, un jour, il va y avoir des procès, et ce sera terrible. Et évidemment, en copropriété, appartement ou maison, il faut penser à vérifier le règlement intérieur. Je rappelle, et là je mets ma casquette de président de conseil syndical, que les balcons, les terrasses sont des parties communes à usage privatif, mais des parties communes donc. Et donc on ne peut pas installer clim et pompe à chaleur et panneaux solaires comme on a envie. Donc faut demander aux voisins. Okay. Réunis en AG. Mais donc non, à la fin, c'est pas très compliqué.
Ok. Donc par exemple, le panneau solaire où t'as juste à le brancher sur une prise, là, t'as rien besoin de faire. En fait, tu le reçois chez toi, tu le branches.
Tu le reçois chez toi, bim, t'as filé un PDF pour remplir la CACSI sur le site d'Enedis. Donc t'as rempli la CACSI.
Ouais,
la CACSI, Enedis répond. Tu vois que c'est très fortement automatisé.
D'accord, ouais.
Et c'est tout.
Ok.
Tu branches
chez toi. C'est beaucoup plus compliqué pour les batteries.
Ouais.
Du coup. La solution, c'est un peu d'ignorer que tu as une batterie, ce qui est un peu bizarre, mais en gros, c'est ça. Parce que si tu veux vraiment dire que tu as une batterie, tu dois leur donner les schémas internes de la batterie. Je l'ai fait avec Anker et il a fallu que le constructeur me file un document technique vachement compliqué.
Ouais.
Et à la fin, ça a quand même été refusé. Donc j'ai dit, en fait, j'ai pas de batterie et voilà.
Ma première CACSI avait été refusée, donc parce que j'avais dit, j'ai un système de stockage de l'énergie. Donc tu dois faire des maths, hein, puisque tu dois dire, voilà, mes panneaux solaires rentrent temps, ma batterie sort temps, mon micro-inverteur marche comme ça, il y a bien un dispositif de coupure dans mon micro-inverteur. Et la première avait été refusée parce qu'ils n'aimaient pas la tronche du schéma unipolaire, et donc il a fallu qu'en fait j'aille chercher le schéma unipolaire d'un autre fabricant.
D'accord.
Et je leur ai soumis.
Okay, ouais.
Et voilà, il allait à Enedis, donc c'est pas le schéma unipolaire qu'ils ont, c'est pas le schéma unipolaire de ma batterie. Enfin, c'est le schéma unipolaire de ma batterie, mais c'est pas celui qui fait pas plein de ma batterie.
C'est là qu'on voit que la réglementation est peut-être bien compliquée pour ça encore. Et...
Oui. Mm. Oui, parce qu'en fait, c'est là d'ailleurs où c'est drôle, Les fabricants prennent en compte le fait que tu es en France, donc que tu peux pas accéder à une certaine puissance de sortie, donc 1400 watts ou 800 watts selon les trucs. Les micro-onduleurs en France dépassent pas 800 watts. Donc tu peux pas avoir 15 panneaux solaires sur ton balcon ou dans ton jardin qui sont reliés à un seul micro-inverteur. Enfin, les fabricants par ailleurs jouent le jeu, te filent les certificats, les TUV ou les Veritas ou les machins. Kennedy te demande pour bien vérifier que oui, ta batterie, c'est pas toi qui l'a fait, qui l'a soudé dans ton placard, quoi.
D'accord, ouais.
Donc tu vois que d'un point de vue réglementaire, si tu veux, les fabricants font le taf, mais là. C'est pas forcément d'ailleurs la législation qui est mal foutue, mais le processus de validation est inutilement compliqué.
Ouais. Ok, c'est vrai que ça a été compliqué pour tes parents, parce que vu qu'ils ont un gros truc, enfin une grosse installation.
C'était l'installateur qui s'est occupé de faire venir le consuel.
C'est compliqué, mais tu t'en occupes pas.
Mmh. C'est ça. Eux, ils ont juste eu, en fait, s'ils voulaient toucher les aides. C'est justement, en fait, d'après ce que j'ai compris, Enedis donne des aides que si tu leur vends de l'électricité. Et du coup, ça, c'est tout à mes parents de faire. Bon, l'installateur avait tout détaillé, qu'est-ce qu'il fallait que mes parents fassent, mais du coup, c'est mes parents qui sont occupés du dossier. Si, il y a un truc qu'on oublie, pour l'installation des panneaux solaires, il faut un permis de... Il faut que la mairie accepte. Parce que
t'es au-dessus d'un mètre 80.
Parce que t'es à plus d'un mètre 80. Déclaration de préalable de travaux.
Ouais, et du coup, ça peut des fois poser problème.
En ville, c'est non, par exemple. Lyon, c'est non. Ouais.
Voilà, puis non, aussi,
puis t'as plein de raisons, si c'est des trucs classés, si
ouais.
t'as plein de possibilités. Ouais.
Donc, ils peuvent être un peu. Je crois que nous, la mairie avait demandé justement d'être sûr que le toit soit OK. Enfin, voilà, c'était. Fallait que le toit soit renforcé. Enfin, oui, fallait vraiment qu'il y ait un questionnement sur le. Sur le toit, s'ils pouvaient supporter les panneaux solaires, elle avait vraiment juste dit ça à la mairie.
Ok.
Et du coup, voilà, donc c'est un peu long, mais là, c'était tout l'installateur qui s'en est occupé, contacté la mairie, il a juste demandé une procuration à mes parents. Et voilà, et du coup, mes parents sont occupés que du dossier chez Enedis pour essayer de toucher les petites aides.
Ok.
Et pour revendre un peu l'électricité, mais comme disait Anthony, ça a été divisé par 3, et ça, c'était un peu la douche froide.
Ouais. Ouais.
Et donc, pour avoir ces fameuses aides, il faut que l'installateur soit certifié RGE. Or, il y a plein d'installeurs à la petite semaine qui te promettent monts et merveilles, qui installent n'importe quoi, n'importe comment, qui ne sont pas RGE, et donc à la fin, tu as déboursé 15 000 euros et tu n'as pas le droit aux aides.
D'accord.
Donc ça, il faut bien faire attention si vous lancez du panneau solaire avec un installateur, RGE uniquement, vous lui demandez son Calliope ou son Veritas ou son, enfin bref, sa certification. On vérifie sur le site de l'État que c'est bien le cas, et uniquement si c'est bien le cas, on signe.
Et t'as des aides, par exemple, si pour les panneaux pour les particuliers, la plug and play?
Non.
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 Rien du tout. Ça, c'est ça que ce soit comme les vélos.
Le bricolage, ça sort de ta poche.
Non, ok. Bon.
Et d'ailleurs, je rajouterais juste un truc sur l'installation, sur les grosses installations. Ça fait plusieurs fois qu'on me conseille de vérifier aussi les décennales des artisans.
Ouais.
Parce que vu que c'est une installation qui va être sur le long terme et qu'il faut que ça soit nickel, donc évidemment l'attestation RGE et aussi la décennale qui peut couvrir, parce que ça fleurit tellement de partout ce genre d'entreprise qu'elle peut mettre la clé sous la porte du jour au lendemain, et s'il y a un souci qui peut toucher du coup la décennale, bah, il faut qu'ils aient un contrat d'une assurance qui puisse prendre le relais pour réparer s'il y a des gros dommages, quoi.
C'est un conseil qui marche pour tous les travaux, mais en particulier ceux-là, oui.
C'est comme la pompe à chaleur ou l'isolation, hein. On ne prend pas le mec du quartier qui a un Kangoo de la Poste à acheter d'occasion. On paye un peu plus cher pour un vrai artisan qui a une vraie garantie décennale, qui a fait 50 installations le mois dernier, qui a 15 mecs, où on va sur société.com ou papers.fr et on vérifie que les 5 dernières années, il n'a pas fait 2 millions d'euros de dettes. Mmh. Ça vaut le coup, d'abord parce que c'est cher, mais ensuite parce que c'est des éléments aussi de valorisation du patrimoine immobilier. Ouais. Donc, ce n'est pas le genre de truc sur lequel on a envie de jouer son avenir financier futur. Mmh. Donc, ouais, si c'est la différence entre j'ai payé 13 000 euros à Madame Michu, enfin Monsieur Michu, ou 15 000 euros à la société machin SARL, on paye 15 000 euros à la société machin SARL. Ouais. Carrément, ouais.
Peut-être d'ailleurs prendre un peu moins pour avoir justement un bon installateur est bien, voilà.
Et d'un point de vue pratique, ça demande des compétences techniques de se lancer ou c'est plutôt plug and play, Nicolas ?
Comme on le disait, c'est les panneaux de base qu'on achète, les kits clés en main, là, c'est vraiment, on peut pas faire plus plug and play. Okay, ouais. Tu branches dans la prise et c'est fini. Donc,
alors pour une fois, c'est vraiment plug and play, c'est vraiment plug.
Exactement,
quoi, c'est...
littéralement. Le seul truc à penser, c'est ça, c'est bien x2. Faut pas lésiner sur le lest au début. Faut bien penser à penser aussi à l'appositionnement parce que donc il y a l'histoire de plein sud, etc. Il y a l'angle qui compte, mais il y a aussi les ombres, comme je disais. Et au-delà de ça, comme Cédric un peu l'évoquait, qu'est-ce qui est le moins pénible dans son jardin ? Donc typiquement, si vous avez une terrasse, c'est mieux en bord de terrasse. Mmh. Moi, c'est dans l'herbe et par exemple, j'ai passé un peu de temps à enlever l'herbe qui avait poussé devant et qui faisait de l'ombre, tu vois, parce qu'il okay, est au sol, quoi. Donc voilà, ça, c'est des trucs bêtes, mais tu peux pas passer la tondeuse devant, quoi. Enfin, tu peux, tu fais ce que tu veux, mais c'est pas une bonne idée.
Okay.
Donc voilà, mais sinon, à part tout ça, c'est assez évident, c'est vraiment plug and play, ouais.
Ok.
J'avais trouvé ça génial, du coup, les câbles, ils sont hyper faciles à brancher. Mmh. Et surtout, on peut très facilement... moi, j'avais besoin d'une rallonge... très facilement trouvé sur Amazon. Enfin voilà, c'est un truc qu'on trouve de partout, ces câbles.
Oui, puis c'est vrai que c'est l'électricité, mais pas de l'électricité. Par exemple, un panneau c'est 500 watts. Alors c'est pas pour dire que c'est pas dangereux, etc. Mais je veux dire, c'est pas de l'électricité non plus très élevée. Donc oui, c'est des petits câbles, c'est assez facile à gérer. Une prise. Alors faut quand même vérifier parce que c'est vrai qu'on dit qu'on branche dans une prise. Si tu as une maison ancienne avec une électricité des années 60, comme c'était le cas quand j'ai acheté, je me serais pas risqué à le mettre dedans non plus parce que t'injectes quand même de l'énergie. Ouais. Tu peux en plus ça peut durer. Enfin moi par exemple ça peut être je dois arriver aux 2 kilowatts injectés en tout avec tout ce que j'ai. Donc sur la durée, etc., il faut quand même faire un peu gaffe à ça.
Okay.
Pas faire n'importe quoi non plus, mais c'est assez simple. Si tu veux une batterie, c'est un peu plus compliqué, le dire, parce que la batterie, en fait, elle a un truc qu'il faut savoir, c'est donc, tu stockes de l'énergie et tu la réinjectes quand t'en as besoin, mais justement, comment tu sais que t'en as besoin ? Ça, c'est une question importante, c'est-à-dire que, par défaut, ces systèmes-là, ils sont vraiment, dès qu'il y a du soleil, ils produisent, ils envoient, s'il n'y a plus de soleil, ils arrêtent de produire et c'est fini, voilà, c'est facile. Quand tu rajoutes une notion de stockage d'énergie, là, t'as besoin d'ordinateur en plus, t'as besoin d'intelligence en plus, pour savoir quand est-ce que tu veux l'injecter. Et donc, dans ce cas, le plus simple, alors, il y a plusieurs, les constructeurs proposent plusieurs options. Par exemple, tu peux acheter des prises connectées. En général, c'est les prises connectées du constructeur et qui surveillent la consommation d'un appareil et quand elle augmente, injecte. Donc, par exemple, si on veut dire, je veux utiliser mon énergie solaire avec ma machine à laver, tu mets une prise sur ta machine à laver et quand elle est en fonction, ça envoie. Ça, c'est une solution. L'idéal, c'est quand même de mesurer exactement ce que ta maison consomme dans les deux sens, donc est-ce qu'elle consomme de l'énergie depuis Enedis ou est-ce qu'au contraire elle en renvoie. Et donc pour ça, il faut installer quelque chose dans le tableau électrique, une pince ampérométrique, ce qu'on appelle, qui se met sur le fil de la phase d'arrivée du compteur. C'est pas compliqué non plus, par contre là tu touches effectivement, c'est plus de l'électricité, c'est plus juste 500 watts, là tu peux, voilà, c'est ta ligne électrique principale.
Ouais.
Donc il faut quand même quelques vagues connaissances, enfin quelques connaissances en électricité, bien penser à tout couper, pas faire n'importe quoi. Ça peut être un domaine où si on n'est pas du tout bricoleur ou on ne sent pas, c'est mieux de faire appel à l'électricien, qui le fera sans aucun problème, d'ajouter le petit module là pour le... Mais moi je l'ai fait, c'est pas compliqué, mais il faut savoir à peu près ce qu'on fait.
Ouais.
Je crois que Cédric, t'en as un aussi, toi, ou Antoine peut-être même ?
Oui, aussi.
Je trouve que c'est quand même... Alors c'est facile à installer, mais juste pour revenir à la domotique en général, ça devient hyper compliqué pour... quelqu'un qui n'a pas l'habitude de justement d'essayer de domotiser son installation solaire pour essayer de...
Ah, les kits clés en main ne sont pas faits pour ça, ouais. C'est des écosystèmes fermés. Et...
Mais même en soi, dès que tu veux un peu automatiser je sais pas, déclencher une charge de voiture dès qu'il y a du soleil ou...
Ah, mais ça, c'est de la domotique, ouais. Eux, ils sont vraiment en mode... ils regardent en fait ta maison dans l'ensemble, mais ils s'en fichent de ce que tu fais derrière. Si tu consommes, alors ils injectent, c'est tout. Ils envoient. Et sinon, ils arrêtent, ils stockent. Enfin, c'est vraiment assez simple. Si tu vas au-delà, oui, effectivement, il faut la domotique. Et là, ces systèmes, en fait, simples de base deviennent plus compliqués que, comme Anthony l'évoquait tout à l'heure, si tu achetais tes propres panneaux, si tu achetais ton propre matériel, là, c'est plus ouvert, en fait. Tu peux en acheter qui sont connectés. Mais bon, c'est plus bricolage que... Enfin, c'est plus compliqué que juste un kit.
Ah, le kit clé en main, il faut vraiment le voir comme... comme si t'achetais un frigo, quoi. C'est j'ai envie d'annuler une partie de ma consommation, enfin, d'effacer une partie de ma consommation, j'achète un panneau solaire, point. Mm. Et ça, pour répondre à Cédric, c'est aussi compliqué que tu veux le rendre compliqué. C'est toi qui vois, j'ai envie de dire. Parce que le reste, effectivement, enfin, on pourrait revenir sur les connecteurs, quoi. Les connecteurs des panneaux solaires, c'est quand même les plus beaux connecteurs qu'on ait jamais fait, quoi. Ces trucs sont étanches. Il y a un détrompeur, donc tu peux pas te tromper de sens de connexion, tu peux pas mettre le plus avec le moins. Enfin, il y a des câbles plats, tu peux passer sous les fenêtres si t'as pas de prise à l'extérieur. Enfin, c'est quand même, tu peux pas te tromper dans la manière dont tu branches tes panneaux solaires. Donc, si vraiment tu te dis, je veux pas m'emmerder, j'ai un kit juste pour effacer la consommation, non, c'est absolument ultra archi simple.
Ok. Mais par contre, la domotique, c'est compliqué du coup.
Oui.
Ouais.
Non.
Non,
mais le problème, c'est que comme je disais, c'est des systèmes fermés. Donc, ils n'ont rien prévu pour sortir les données. En fait, tu as des applications qui sont plus ou moins jolies, qui peuvent être très jolies d'ailleurs, peu importe, ouais. Mais les données, elles restent dedans, elles ne sont pas faites pour sortir. Et donc, moi qui tenais à tout avoir Home Assistant, j'ai pas mal galéré, effectivement. Et même encore aujourd'hui, ce n'est pas parfait. Bêtement, je peux pas dire à mes batteries. Ah bah tiens, je sais que demain, parce que ça, elles le font pas encore tellement. Demain, je sais qu'il va faire très beau. La nuit, tu recharges pas la batterie, tu touches pas. Par contre, demain, il va faire moche. Bon, bah, charge les batteries, parce que même si, comme on a dit tout à l'heure, c'est pas rentable, les batteries, elles sont là. Donc, autant profiter quand même des heures creuses pour les recharger et les utiliser le lendemain. Ça, en fait, c'est quelque chose. Les applications, elles sont bien, mais je pense assez simples encore. Même si les constructeurs y arrivent, alors évidemment, comme on est en 2025, ils parlent tous d'intelligence artificielle, donc tout le monde a maintenant des systèmes IA qui sont censés être très intelligents. En fait, ce qu'ils font, c'est ce que nous, on veut faire instinctivement, c'est dire, bah, tu regardes la météo du lendemain, tu regardes, voilà, tu regardes la consommation moyenne les derniers jours. Finalement, une maison, la consommation, enfin un logement, c'est assez stable. Tu fais, je sais pas, une ou deux machines par semaine ou six si tu as des enfants. Tu fais, voilà, tu as le frigo qui tourne tout le temps comme ça. Tu as une voiture électrique, tu la recharges, je sais pas, une à deux fois. Voilà, ouais. C'est assez facile de connaître. Donc, tu peux dire, tu peux prédire ta consommation en quelque sorte. Enfin, il y a toujours des imprévus, mais en moyenne, tu peux dire, voilà, je vais avoir besoin de tant de kilowattheures tel jour. Il va faire beau, je laisse les panneaux faire, il va pas faire beau, je charge la nuit. Et ça, c'est quelque chose effectivement qui n'est pas encore tellement fait dans les apps, même s'ils y viennent. Alors qu'en domotique, c'est possible, c'est même toute l'idée. Mais le problème, c'est que ces systèmes sont fermés, donc on peut pas contrôler vraiment les... faut plus le prendre en fait en lecture seule, quoi. On peut voir ce qui se passe, mais on peut pas tellement influencer sur ce qui se passe.
La toute petite chance, c'est qu'il y a quand même des bidouilleurs de talent, et qu'en général, les gens qui achètent des panneaux solaires et qui veulent bidouiller avec, ils savent. Donc par exemple, pour Nicolas ou moi, ou même Cédric, qui utilisons un assistant, c'est assez facile soit d'utiliser des intégrations qui ont été bidouillées. Donc, par exemple, pour mes panneaux Zendur, il y a un mec dans son coin qui a fait une intégration qui récupère les datas, soit de bidouiller avec MQTT pour au moins remonter les données dans le tableau de bord énergie. Donc, tu restes pour le coup en lecture seule, mais ça permet d'intégrer tout ça à d'autres automatisations. Et puis, il y a quand même la plupart des fabricants qui prennent en charge les prises et les pinces ampérométriques de Shelly. Or, pour le coup, Shelly joue très très bien le jeu de la domotique, et donc à partir des données de Shelly plus des données que t'as fait remonter de tes batteries plus tout ça, tu peux quand même commencer à faire des choses intéressantes. Moi par exemple, cet hiver, les jours où il allait faire plus froid le lendemain, enfin il faisait très beau la veille mais froid le lendemain, les panneaux solaires, le jour où il faisait beau, on mettait un maximum d'énergie dans les batteries pour que le lendemain les batteries alimentent la pompe à chaleur. Donc on arrive quand même à faire des trucs. C'est pas aussi simple que si c'était plus simple. et notamment, ce serait bien que Zendure, Anker et les autres, enfin Anker Solix et puis les autres fassent des intégrations en assistant. officiel et qui fonctionne.
Ça va venir de plus en plus. Je sais qu'en cœur, notamment, ils ont l'air assez intéressés par le projet, la Home Assistant qui existe. Mais c'est vrai qu'en attendant, tu dépends d'eux, et ce qui est pénible, c'est de la domotique par serveur interposé. Donc, en fait, tu lis leur serveur par des API, donc ça, c'est un peu pénible. Mais bon, malgré tout, je pense que ça va venir parce que c'est une demande. Effectivement, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui veulent du solaire qui bricolent aussi en domotique. Ça se rejoint pas mal, les deux groupes.
Ce qui est assez paradoxal, c'est que c'est pour le moment plus facile d'acheter des panneaux solaires chez Brico Dépôt et un micro-inverteur sur AliExpress et de foutre tout ça dans Home Assistant. Que d'acheter un pack clé en main Anker Solix ou Zendure ou je ne sais quoi d'autre et le faire fonctionner comme assistant.
Okay.
Évidemment, on ne parle pas de maison, de Google ou d'Amazon Alexa. On oublie tout ça.
Okay.
Enfin, on oublie. C'est-à-dire que Alexa va te permettre de contrôler l'application du fabricant, mais pas autre chose.
En théorie, Matter pourrait aider, mais c'est Matter.
Mais c'est Matter.
Ils ont ajouté toute la partie énergie, justement, donc ils gèrent tout ce qui est panneau, tout ce qui est batterie, ils gèrent tout. Donc tout est là, c'est juste qu'il n'y a personne qui le prend en charge derrière, à part Home Assistant, mais Home Assistant est déjà bien couvert. Donc,
Avec un degré très fin, d'ailleurs, où l'énergie injectée dans la batterie par ta prise de courant est à une ligne différente de l'énergie injectée dans ta batterie par ton panneau solaire. Donc du coup, tu peux vraiment faire des politiques très très fines, c'est juste que personne ne le fait.
Okay.
Est-ce que du coup, les panneaux solaires, en tout cas en France... C'est pas, on va dire, 90% idéologique, c'est-à-dire on a envie d'avoir des panneaux solaires parce qu'on trouve ça plus écologique, par exemple, et 10% vraiment de rentabilité, ou la limite est un peu plus au milieu, parce que j'ai vraiment l'impression que c'est un choix perso plus que vraiment quelque chose avec laquelle on va faire des économies.
C'est-à-dire que l'époque où c'était vraiment rentable et révolu, c'est sûr. Je pense à mes parents qui ont installé des panneaux solaires sur leur maison du côté de Toulouse, là, il y a 15-16 ans, un truc comme ça. Et à l'époque, effectivement, tu pouvais signer un contrat de revente à prix fixe sur 20 ou 25 ans, j'en sais rien, avec des tarifs qui aujourd'hui sont délirants. Donc leur installation est déjà rentable depuis très longtemps, elle rapporte beaucoup d'argent en ce moment. Cette époque-là, c'est fini, ça, c'est évident. C'était vraiment, en fait... quand il l'a fait, je me rappelle, mon père en parlait comme un investissement, en fait. C'était comme s'il avait pris des actions, quoi. C'est purement financier. Donc oui, aujourd'hui, c'est en grande partie idéologique, comme tu dis. Après, au-delà de ça, c'est très rigolo quand t'es geek, quand même, de voir les électrons qui arrivent par magie. Là, en ce moment, en live, on est quasiment à 12 kWh de production depuis ce matin. Donc c'est 12 kWh qui sont soit stockés dans des batteries, soit que j'ai utilisées, mais que j'ai pas consommées. Ah oui, si tu penses d'un point de vue financier, 12 kWh, ça vaut rien. Enfin, c'est pas intéressant financièrement, mais c'est quand même 12 kWh qui n'ont pas été produits ailleurs et qui c'est de l'énergie locale, quoi. Je consomme de façon plus locale.
Alors, le soleil est loin quand même, mais.
Certes.
Non, et puis enfin, encore une fois, je veux dire, il n'y a pas des centaines de milliers de personnes à travers l'Europe qui ont installé du kit d'autoconsommation, je pense notamment en ville. C'est pas juste idéologique, quoi. Tu réduis ta facture d'électricité. Je veux dire, une fois que tu as passé le cap des 3, 4 ou 5 ans que ça te prend à rembourser, tu réduis ta facture d'électricité. Mmh. Et nous, on a la chance, alors en France, d'avoir un prix du kilowattheure qui est... de moins en moins raisonnable, mais relativement raisonnable. Mais quand t'es dans des pays où t'as des contrats où le prix de ton kilowattheure il change selon la journée et qu'à des moments de la journée c'est 2 € le kilowattheure, t'es bien content d'avoir, comme dit Nicolas, de l'électron pur jus ultra local qui a tapé ton panneau sur ton balcon.
Oui, ça explique le succès de ces produits, notamment en Allemagne, où c'est beaucoup plus courant que chez nous, mais parce qu'effectivement ils ont l'électricité est toujours plus chère et ils ont des prix des fois qui seraient vraiment. Qui nous semblent délirants, mais voilà, qui sont.
Ouais. Et en plus, du coup, si je suppose que si énormément de Français en disposaient de ces kits, ça soulagerait la pression sur les centrales et nucléaires pour, par exemple, les moments où il fait très froid, des choses comme ça.
Tu le vois en été où il y a un décalage du pic de consommation. Enfin, tu vois que il y a un investissement massif des Français dans les pompes à chaleur. Les gens installent de la clim, et donc on voit un décalage progressif de la courbe de consommation vers le milieu d'après-midi. Si soudainement il y a des gens avec des panneaux solaires, tu peux effacer une partie de ce pic. Et c'est pas forcément plus mal pour la grille. Alors c'est pas... on en revient toujours au truc habituel, les gestes individuels ça suffit pas, machin truc muche, ce qui est... voilà. Mais oui, oui, effectivement. Après, on parlait de l'équation... de l'équation financière, pareil, si tu rentres dans l'équation écologique et que tu fais le coût écologique d'un panneau solaire sur son cycle complet de vie par rapport à si tu n'en avais pas, que tu utilisais l'énergie nucléaire française, on s'en sort plus, quoi. Il y a un moment où faut arrêter de discuter, il faut choisir, quoi. C'est soit tu mets un panneau solaire, soit tu n'en mets pas, quoi.
Et donc en parlant des prix, ouais, justement, pour les batteries, donc du coup, c'est pas vraiment rentable, de ce que j'ai compris.
Bah, en tout cas, ni Nicolas, ni moi, ni tous les gens qui s'intéressent aux panneaux solaires et qui savent utiliser une calculatrice n'ont réussi à trouver de scénario dans lequel ça marchait.
Et donc, ça serait quoi la bonne option pour s'équiper, pour quelqu'un qui voudrait débuter, juste acheter un panneau solaire comme ça?
Ah bah oui, c'est ce qu'il y a de plus simple. Ouais. Mmh. C'est facile à faire et c'est pas trop cher, donc c'est... Si t'as de la place... Alors après, voilà, faut avoir de la place, faut pouvoir le faire. Parce que c'est quand même gros, hein. C'est vrai qu'on se rend pas forcément compte... Anthony disait 1m80, je crois que c'est effectivement à peu près ça.
1m80, 1m80 sur 1m20 pour le truc typique, et ça a pas l'air comme ça, hein. Mais par exemple 1m20 de hauteur, le quart de corps typique de balcon, c'est 1m. Donc il passe pas sur ton quart de corps de balcon, le panneau solaire. Donc ouais, et 1m80, c'est pas petit en fait, hein. C'est
Et si 20 kilos,
hein.
En plus, ouais.
Puis 20 kilos, à mon avis, c'est... Faudrait que je vérifie, mais notamment avec les supports et tout, je pense qu'on est au-delà.
Ah non, c'est le panneau, oui, c'est ça, c'est le panneau solaire tout seul.
Ouais. Mais donc, par exemple, le BIM que j'ai là, c'est 429€ le panneau. C'est assez cher par rapport à ce que tu peux faire en bricolant dans ton coin, mais tu payes le confort du clé en main. Par contre, pour donner une idée, la station solaire en cœur que j'ai là, donc c'est 4 panneaux solaires et 4 batteries, c'est à peu près, alors les prix varient, etc., mais c'est à peu près 5 500€. Donc là, on n'est pas du tout sur les mêmes valeurs.
Okay.
Après, voilà, les panneaux tout seuls... le problème, en fait, c'est que si tu achètes, par exemple, 4 panneaux solaires, tu vas quasiment perdre tout, parce que c'est beaucoup trop par rapport à ce que toi, tu peux consommer. Sauf si, effectivement, tu as un plan B type voiture ou type chauffe-eau. Mais si tu n'as pas de batterie et de stockage, cette énergie est perdue, donc ce n'est pas très utile. Et voilà, donc c'est pour ça que si tu veux juste débuter, comme ça, c'est pas mal de dire le panneau, éventuellement un deuxième panneau si t'as besoin, mais honnêtement, quand t'es à 400-500, enfin, évidemment, c'est pas toute la journée, c'est que l'été, etc., mais tu arrives quand même avec ces produits à effacer ton talon toute la journée sans trop de problèmes l'été.
C'est le truc qui est assez paradoxal, mais en fait, la solution la plus rentable, c'est de commencer... Enfin, la solution la plus rentable, c'est pas seulement de commencer avec un seul panneau, mais c'est de continuer avec un seul panneau. Et typiquement, t'es en maison, t'as une façade qui donne plein sud, sur laquelle t'as genre un garde-corps. Typiquement, tu sais, le faux premier étage d'une maison, là, où t'as ces maisons qui ont un arrière un peu plus... Donc t'es pas à 1m80 du sol. C'est le cas idéal, quoi. Tu mets un panneau solaire, soit le kit de BIM, soit le panneau solaire premier prix, là, donc où t'as avec ton micro-onduleur, t'es à 300€. Ton truc, en 2 ans et demi, il est rentable, quoi. Et l'été, t'effaces... alors, l'hiver, c'est difficile pour ta pompe à chaleur, mais l'été, t'effaces 80% de ta clim. Ça n'empêche pas que tu contribues à l'îlot de chaleur et tout mais t'as effacé la conso de ta clim, donc ou quasiment. Enfin, moi, par exemple, cet hiver, même avec le peu qu'on recevait, il y avait des journées, les journées ensoleillées d'hiver où on payait pas le chauffage. Donc c'est quand même sympa. Donc oui, panneaux solaires tout seul. Et ce qui est bien, alors, c'est que la plupart des fabricants qui font du kit clé en main permettent super facilement d'ajouter un deuxième panneau. Donc quand tu dis mon talon de conso plus une pompe à chaleur ou plus un chauffe-eau, je suis pas loin du kilowattheure, tu te dis deux panneaux de 500, c'est pas mal. T'es à moins de 1000 balles et 3, 4, 5 ans,
c'est rentable. Okay.
Donc là,
et on a des marques à recommander, j'ai vu qu'on avait testé plusieurs trucs, il y en a un qui se démarque du lot, qui est pas trop cher.
Pour avoir beaucoup regardé ça avec Nicolas, et je pense qu'il dira pas l'inverse, en fait tout le monde utilise les mêmes panneaux. Donc c'est du panneau le simple face avec des cellules de type P et en voie de disparition. Le marché est vraiment allé sur le biface avec des cellules de type N. Le rendement est un tout petit peu meilleur, donc les meilleurs panneaux de type P, le rendement c'est 24,1%. Là en général on est plutôt autour de 22% de rendement. En fait quasiment tout le monde utilise les mêmes panneaux qui viennent des mêmes usines qui viennent de Chine. Tu regardes les étiquettes, c'est les mêmes noms. Il y a quelques acteurs mais qui sont pas sur le kit clé en main, qui utilisent du panneau fait en Europe, où là t'as des rendements qui sont bien bien meilleurs, mais ça c'est plutôt pour de l'installation typiquement genre toit de data center ou des choses comme ça, donc pas forcément du particulier. Mais sur le particulier, je veux dire, les panneaux Anker qu'a reçu Nicolas, c'est strictement les mêmes panneaux que ceux que j'ai reçus d'Endure.
D'accord.
Donc, bon.
Okay. Après, ce qui fait la différence quand même, c'est la simplicité d'utilisation. Ouais. Dans tous les sens, c'est pas seulement que c'est facile à brancher, etc., mais typiquement les supports.
Ouais.
Je vois la différence, moi, donc j'ai des panneaux BIM et des panneaux Anker. Alors, c'est le panneau Anker, c'est les panneaux qu'ils m'ont fournis, en tout cas pour le test. Et bah, par exemple, j'ai reçu trois bouts de métal et il a fallu les assembler moi-même. C'est pas compliqué, ouais. Hein. Mmh. Mais voilà, c'est un truc, voilà, tu poses le truc à plat, tu les assembles, tu fais un peu de bricolage, un peu de. Et malgré tout, à la fin, tu t'en rends pas forcément compte, mais voilà, c'est vrai que le panneau de BIM, il a son propre support qui est intégré. Tu peux ajuster l'angle facilement, tu peux faire plein de choses, c'est plus facile. Voilà. C'est ça que tu payes, en fait. Mm. Mais oui, la technologie, ça change pas grand-chose. Parmi les grandes marques qu'on peut citer, il y a quand même Sonology, ouais. Qui est un peu aussi très connu en France, très courant. On n'a pas testé leurs produits, mais voilà, c'est très proche de BIM dans l'esprit. Mm. Ils ont une option qui est pas mal, c'est que tu peux ajouter effectivement une toute petite batterie au dos du panneau. C'est directement dans le dos.
Super.
Et qui permet d'effacer un petit peu, enfin de stocker un peu, et de prolonger un peu d'éviter d'injecter trop d'énergie sans que ce soit trop cher, même si je crois qu'on est déjà à 1 000 euros. Donc,
juste ce qu'il faut pour le barbecue électrique quand le soleil se couche. Tu vois, c'est le truc impeccable. Tu vois.
Okay.
Et justement, je rajouterais que ce que j'ai déjà eu les questions, c'est oui, mais moi, j'ai pas de voiture électrique, je suis au gaz, chauffé au gaz et mon eau chaude est au gaz, et ça me servira à rien. Et justement, en fait, c'est hyper important, je pense, de calculer son talon, comme ça que tu as appelé ça, Nicolas, de consommation, parce que c'est lui qui va définir si c'est cool ou pas. Enfin, du coup, et en fait, on se rend compte très facilement qu'on a souvent 200 watts qui tournent toute la journée entre un frigo. Et autre chose qui, voilà. Et du coup, ça peut être très facilement annulable.
Tu peux avoir plus si t'as, genre, pompe à piscine, plusieurs frigos congèles, ce genre de choses. Mais oui, 200-300 pour une maison, ça me semble...
Non, oui. Puis si ton argument, c'est je chauffe au gaz et j'ai pas d'isolation, j'ai envie de dire, oui, achète pas de panneaux solaires, mais passe à la pompe à chaleur et isole, quoi.
Ouais.
C'est... Oui. Enfin, oui.
Non, mais tout le monde peut y trouver son compte, même les gens qui pensent que leur vie ne tourne pas autour de l'électricité.
Oui,
c'est ça, si on, voilà.
Tu finis par utiliser l'électricité, oui.
Sauf s'ils coupent leur frigo la journée, oui, tout à fait. Et je dis ça, mais c'est vrai que le frigo, c'est le truc qu'ils consomment tout le temps, quoi qu'il arrive, toute la journée, c'est très stable.
Mmh. Ouais.
C'est l'idéal. Ça, la box, typiquement.
Ouais. Mais qui parfois consomment plus que le frigo, c'était le cas notamment des Freebox, où les Freebox consomment plus qu'un frigo, il faut le savoir.
Ça dépend du frigo aussi. Je modulerai parce que bon.
Oui, non, mais
la taille et de l'âge.
La moyenne du frigo disponible chez Darty, j'avais fait un article sur le sujet. Le frigo typique acheté par le français en 2025 consomme moins qu'une Freebox. Donc,
okay.
Mais pour en revenir sur l'installation, ce qu'il faut bien dire, c'est que donc c'est un marché qui est encore tout jeune. Nous, par exemple, c'est peut-être moins le cas avec Nicolas, mais moi j'ai vu la différence. J'ai reçu 3 vagues successives de produits Zendure. Et en l'espace même d'un an, on est passé de Zendure qui est en fait package de la batterie chinoise et du panneau solaire chinois avec du micro-inverteur allemand. Donc c'était vraiment, tu recevais 15 cartons différents avec la batterie produite par Zendure, les panneaux solaires produits par une autre entreprise, les câbles qui venaient d'Allemagne et un micro-inverteur de marque allemande, donc même pas une marque Zendure ni rien, à une solution entièrement intégrée.
Ouais.
Où c'est des batteries qui s'empilent les unes sur les autres avec un micro, avec un inverteur qui s'empile sur la batterie, qui est tout est brandé Zendure. Le micro-inverteur est maintenant conçu par Zendure directement.
Okay, ouais.
Alors les panneaux solaires, ça reste du panneau solaire de marque blanche rebrandé, mais on voit qu'il y a une plus grande intégration, donc c'est aussi une plus grande facilité d'installation. Voilà, quand les batteries, tu les stacks les unes sur les autres, ça veut dire qu'il n'y a pas de câble entre les batteries, ou que c'est plus facile, même d'un point de vue sécurité. Il faut aussi regarder le test du système Anker chez Nicolas, où le système de batterie est presque sexy, quoi, l'espèce de tour de métal là, qui coûte 5000 balles. C'est assez joli dans un garage. Donc on voit même en l'espace d'un an comment on a énormément progressé en intégration et donc en simplicité d'installation. Et donc, par exemple, le problème qu'on a aujourd'hui, ou encore aujourd'hui, Zendure ou Anker, quand ils t'envoient de l'accastillage pour lester ou pour mettre sur les balcons, c'est du profilé alu qu'il faut assembler soi-même. On va assez vite passer à des solutions intégrées directement en panneau. Enfin, on le voit que ça progresse très 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 vite.
Et les prix baissent quand même, alors pas
ce qui est dingue. Ouais.
Oui, mais sur les batteries en particulier, je pense qu'il y a énormément. Enfin, je sais qu'il y a énormément de marge parce que les.
Oui.
Justement, les marques qui proposent des. C'est un peu comme avec les panneaux solaires, en fait. Si tu achetais tes propres cellules LFP, ce qui est tout à fait possible, hein, c'est pas aussi simple, mais ça existe. Et si tu achetais tout ce qu'il faut, ça coûterait beaucoup moins cher. Et je pense qu'il y aurait moyen que ce soit beaucoup plus facile à rentabiliser parce que c'est vraiment. Je sais pas sur quel ratio on est, mais la différence est vraiment importante. Et ils font payer justement toute cette simplicité, cette intégration plus facile à faire. Et alors, autant créer ton propre système juste panneau, c'est facile. Autant créer ta propre batterie stockage, ça reste un peu plus compliqué.
Oui, ouais.
Donc, ils ont un avantage là-dessus encore. Mais je pense que les prix vont baisser. Il y a peut-être de. Enfin, le prix de toute façon des cellules de stockage ne cesse de baisser, hein, donc mécaniquement, voilà, ça peut-être aussi que le prix de l'électricité va augmenter en France, qui paradoxalement simplifiera les calculs de rentabilité. Enfin voilà, c'est. Mais bon, aujourd'hui, c'est vrai qu'on recommande pas forcément, mais voilà, c'est pas non plus. Je pense que ça peut venir, quoi. C'est pas impossible d'être rentable avec des batteries.
Pour donner un ordre d'idée, l'installation électrique hors panneau, donc batterie et onduleur. Quand je les ai reçus, coûtait 2 200 €, et c'était déjà une promo sur le prix public. Et là, j'ai regardé en préparant ce podcast, 1678.
D'accord.
Donc, on a déjà perdu un sacré paquet de fric.
Ouais.
Il y a souvent des promos aussi. Ça, ouais. C'est un conseil qu'on peut donner chez surtout les constructeurs chinois, Zendure ou Anker. Il y a tout le temps des promos, donc si vous ne voyez pas une promo, c'est que ce n'est pas le bon prix.
Oui.
Il faut se dire ça.
Si vous payez le prix.
5500.
C'est ça, si vous payez le prix public, c'est que vous vous faites arnaquer.
Ouais. C'est quand je disais 5500, c'est le prix théorique, mais en pratique, oui, tu peux effectivement économiser au moins 1000 facilement. Quoi.
Ok, ouais. Ok, et ben merci à vous trois pour ce retour d'expérience et ces conseils. On espère que ça aura aidé nos auditeurs à mieux comprendre ce sujet. Je mettrai les liens de vos différents papiers dans la description du podcast. Anthony, merci d'être passé, à bientôt.
Salut.
Nicolas, à la prochaine.
Salut.
Cédric, à plus.
Bye.
Et nous, on se retrouve très vite pour un prochain podcast. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.